En fait, l'expertise, elle est là, c'est de prendre un sujet qui est complexe et de le rendre simple. Quelqu'un qui n'apprécie pas forcément ce travail à cette juste-là va se dire, mais attends, vas-y, t'as vu le résultat, c'est simple, c'est bon, moi aussi je peux le faire. Bah en fait, bah vas-y, fais-le, si c'est si simple, n'hésite pas.
Il est décourageant de consacrer son temps à étudier et à construire une carrière alors que d'autres semblent penser qu'ils peuvent le faire aussi, sans antécédent ou formation. Cette citation est tirée d'une étude réalisée par le Norman Nielsen Group. Cette étude pointe un overlap fréquent entre les métiers du design et du product management. Cet overlap produit des effets négatifs sur les équipes. Frustration, perte de confiance, manque d'efficacité et production de moins bonne qualité. Les métiers du design déclarent avoir plus souvent le sentiment d'être soumis à un overlap de la part de différents métiers présents dans les entreprises. La relation entre ces métiers est présentée comme celle d'un duo qui travaille main dans la main. Pourtant, dans la pratique, les choses ne sont pas si simples. Dans cet épisode, nous explorons les raisons de cet overlap. Nos invités vont partager leur point de vue et leurs expériences sur cette situation. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet, designmasterclass.fr, et sur les plateformes habituelles, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Vous souhaitez aller plus loin? En vous abonnant à notre newsletter, vous allez recevoir une liste de livres, ressources et des bonus. Rendez-vous sur notre site internet. Chapitre 1. Définition des rôles entre théorie et pratique. Pour commencer, il nous semble important de poser une définition de ces rôles. Nous avons donc demandé à nos invités de nous partager leur définition.
Audrey Pedro, moi je travaille dans le product management depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai commencé en 2012 en tant que PO dans un cabinet de conseil qui s'appelle Xebia. Aujourd'hui, je suis product coach chez Scaleway, un cloud provider français qui fait partie du groupe Iliad. En fait, moi, j'aime bien penser aux deux rôles et d'ailleurs en incluant aussi dans les explications aussi le rôle du engineering manager ou tech lead. Enfin, ça dépend des organisations. Hein. On peut un peu l'appeler selon la façon d'appeler de l'entreprise. Mais en fait, ce trio qui, pour moi, est le trio en charge de faire en sorte que le produit adresse un problème qui existe, pour lequel les gens sont prêts à utiliser un logiciel pour essayer de résoudre cette pain qu'ils ont sans, et que ce soit utilisable et que ce soit faisable techniquement et viable. Donc c'est, enfin là je paraphrase Monsieur Marty Kagan, hein, donc rien de très original. Et si on regarde les quatre objectifs finalement d'un produit qui fonctionne, donc il y a la partie lovable, usable, feasible et viable. Bah, le designer, c'est lui qui va être lead sur la partie usable. Le tech lead engineering manager, il va être lead sur la partie feasible. Et le PM, il va être lead sur la partie lovable. Et parfois, quand il y a un product marketing ou autre, il peut y avoir quelqu'un qui va être lead sur la partie viable. Mais après, les trois, moi, je trouve que c'est très intéressant quand les trois regardent les quatre aspects. Parce que bah, l'intelligence collective, hein, rien pareil encore de follement révolutionnaire, mais juste à trois cerveaux, on a des meilleures idées qu'à un cerveau. Et du coup, être capable, avec ces deux collègues très rapprochés, d'avoir des discussions autour de problèmes un petit peu compliqués, en général, ça permet de trouver des solutions qui sont plus intéressantes. Ça rentre pas dans le détail du rôle du product manager, du product designer. Du coup, si en une phrase, ça serait ben, le product manager est en effet responsable de s'assurer que on va répondre à un problème pour lequel il y a des utilisateurs qui vont répondre présent. Et le product designer, lui, doit s'assurer que on va trouver un moyen de résoudre ce problème qui est seamless en termes d'usage, ou en tout cas qui est assez simple pour que le coût d'utilisation soit inférieur au coût de la pain sans solution, quoi.
Je suis Panthéas, ça va faire 10 ans que je suis product designer dans différentes structures, les plus grosses comme les plus petites. J'ai commencé ma carrière chez PayPal et c'est là où j'ai vraiment découvert le métier de product designer. Et ensuite, j'étais chez La Fourchette, Blablacar, pour enfin être chez Hero's Job. Mon métier consiste à être product designer et je travaille main dans la main avec les product managers et les développeurs dans mon quotidien. Alors, dans une entreprise, quel est le rôle du designer? Ça va dépendre de l'entreprise elle-même. Pour moi, le product designer, fait partie intégrante de l'équipe produit. Et donc, le product designer, il a la responsabilité de comprendre les problèmes user. C'est l'avocat des utilisateurs. Il a la responsabilité de solutionner ces problèmes-là. Et il est responsable du bon delivery de ces solutions. Pour moi, les PM, ils ont une approche beaucoup plus business que les product designers. Donc, effectivement, il y a du overlap, mais eux, ils sont responsables des bons process de delivery. Ils sont aussi, là où il y a du overlap, ils sont aussi responsables de la bonne définition du problème. Donc, c'est à ce moment-là où product designer et product manager vont travailler ensemble pour définir les bons problèmes à tacler. Et puis ensuite, ils vont travailler ensemble, ils vont ping-ponger ensemble, mais le product manager, c'est un peu le chef d'orchestre. Il va organiser le process de delivery avec les différents stakeholders. Il va aussi penser les stratégies produits et comprendre les problématiques business de la boîte.
Moi, c'est Jérémy. Du coup, je suis aujourd'hui co-founder de The Design Crew. The Design Crew qui est une boîte qui travaille à rendre en gros les compétences et la culture design accessibles au plus grand nombre à travers des formations en design et aussi à travers de l'accompagnement de sujets product design avec des entreprises. Du coup, ça fait un an que j'ai rejoint ce projet-là avec Jordan et Julien, mais j'y travaille depuis 3 ans en tant que mentor, donc c'est une boîte qui a à peu près 3 ans. Et avant ça, moi, j'étais head of design chez Drivey, qui s'est fait ensuite racheter par Getaround. Donc, j'ai fait 3 ans là-bas en total à Paris avec l'équipe de Drivey, où j'ai monté en gros l'équipe design, l'équipe product design, puisque j'étais arrivé seul product designer et qu'on a dû recruter pour être un nombre de 7 avec UX writing, user research et brand design. Avant ça, j'étais en Californie pendant quelques années pour travailler plutôt chez les grosses boîtes design Facebook et Google, où j'ai appris beaucoup de choses en début de carrière. Facebook qui poussait beaucoup justement cette vision de product design et ça m'a vraiment inspiré. Et Google, je travaillais chez YouTube avec l'équipe à San Bruno pour travailler sur les outils créateurs. Et pour Facebook, c'était plutôt côté Messenger. Et j'aime bien essayer d'axer. Je vais commencer par le PM. D'axer la réflexion autour du fait qu'un très bon PM, selon moi, doit pouvoir craquer une opportunité business. Il y aura plein d'autres facettes que je vais décrire, mais ce n'est pas seulement quelqu'un qui peut faire de la gestion de projet et qui peut avoir, en gros, des retours à faire sur une UX d'un projet. Pour moi, il doit avoir cette composante quasiment entrepreneur d'aller chercher les meilleures opportunités par rapport à des problèmes ou des opportunités business de la boîte, d'essayer de la craquer à travers le benchmark, à travers une pensée, encore une fois, business et expérience assez poussée. Pour moi, il doit être un peu la source, le référent projet. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas l'owner seul du projet qui va tout faire avancer, qui va faire toutes les décisions. Mais un référent projet, c'est plus simple dans une boîte d'en avoir qu'un plutôt que deux, pour à la fois les équipes qui sont externes au projet, qui veulent avoir plus d'informations, il y a un seul point de contact. Et c'est aussi pour les équipes, du coup, qui travaillent avec le PM, donc la squad ou l'équipe projet, d'avoir une source d'information qui peut être le PM, qui essaye de un peu rapatrier toutes les, à la fois, demandes de stakeholders, les différentes infos qu'on a pu trouver à droite à gauche. Et donc, c'est, encore une fois, en termes de duo, hyper intéressant d'avoir, si on a des doutes ou des besoins de creuser quelques points, d'avoir une personne pour nous aider à résoudre ces problèmes et vraiment avoir toute cette matière. Et ensuite, après, donc ça, c'est un peu les tâches macro, je trouve, et les tâches micro qu'on va pouvoir trouver chez un PM, c'est justement ce ping-pong après dans comprendre et bien définir le problème. Et là, je trouve que le designer a beaucoup de choses à apporter. Ensuite, j'aime bien que des challenges assez, je dirais, calés, assez pertinents en UX puissent aussi offrir du feedback au designer. Et ensuite, un PM qui bosse super bien avec les développeurs pour comprendre aussi leurs contraintes et offrir des, je dirais, une finalité de projet, de spec très clair pour que le développement se fasse en bonne et due forme. J'apprécie aussi des PM qui sont très intéressés par l'UX et la user research. Ça me fait très plaisir. Plus que ça me frustre, moi, ça me fait très plaisir. En fait, si les PM ont une sensibilité UX tellement forte qu'ils veulent s'impliquer dans le travail d'user research ou d'idéation ou donner des feedbacks, bien sûr, sur la solution, aucun problème. Pour le coup, tant que c'est bien fait et tant que c'est fait en collaboration forte avec le designer. Et dans le meilleur des cas, on arrive à des scénarios où on peut même être deux à faire de la user research, aller plus vite à confronter nos feedbacks, ou voir justement s'alterner dans les rôles un peu de médiateur, prise de notes, etc. Et du coup, pour le product designer, donc qui va être pour moi beaucoup plus leader du côté expérientiel et de la solution proposée à un problème donné, je dirais les premières phases dans lesquelles il peut avoir beaucoup de valeur, c'est déjà questionner le problème, questionner en fait la source du projet, c'est-à-dire pourquoi on fait les choses, est-ce que ça sert vraiment à la fois au business bien sûr, mais le PM est là pour normalement justifier ces points-là, et surtout est-ce que c'est un besoin utilisateur, est-ce que ça résout des pain points identifiés, des vrais problèmes, ou est-ce que c'est une opportunité qui paraît pertinente à mettre dans les mains des utilisateurs. Donc je pense que dès la phase problème en termes de deuxième cerveau pour bien clarifier, confronter, challenger les points, les objectifs, et ensuite surtout aller creuser le besoin utilisateur s'il n'est pas clair. Donc si on a trop d'inconnus ou qu'on a vraiment envie de valider certains points auprès des utilisateurs, pour moi le designer est censé pousser pour que l'équipe fasse justement ce qu'on appelle de la user research, donc l'initiative d'aller sur le terrain et prendre en gros l'input utilisateur pour valider un peu notre direction de projet. Ça, il n'est pas le seul, hein. Il y a aussi toute l'équipe user research dans les plus grosses boîtes, on pourra en parler, qui est souvent rattachée au design. Aux États-Unis, qui est tout le temps rattachée au design dans les organisations que j'ai vues, et en France, qui l'est la plupart du temps. Pour moi, la composante user research est inhérente du travail du product designer ou du UX designer, et c'est quelque chose qu'on doit pousser la plupart du temps pour aller, encore une fois, valider des inconnus et être sûr de capter la matière terrain qui nous permet d'être confortable sur l'évolution de la feature, le cadrage et la santé, enfin le cadrage du problème et l'évolution de la feature.
Jérémy analyse la source de cet overlap comme une confusion entre deux rôles qui se ressemblent beaucoup. Avec lui, nous faisons le constat que les frontières sont floues et les rôles souvent mal compris au sein des entreprises.
C'est pas trop une surprise que ces deux rôles, sont assez difficiles à articuler dans beaucoup de cas. Pourquoi ? Parce que déjà, j'en parlais dans la conférence, mais on va en parler plus en détail. Il y a de nature, en fait, par définition, c'est des rôles qui ont beaucoup de compétences en commun et qui ont des missions très, très proches. Souvent, on va dire déjà que les deux sont plutôt responsables de l'UX. Encore plus en France, d'ailleurs, qu'aux États-Unis pour le PM, là où aux États-Unis, le PM était quand même bien plus... selon moi, positionné sur l'apport business dans le produit et moins responsable UX qu'on peut quelquefois retrouver en France et qui porte, je pense, à cette confusion design PM. Mais en tout cas, dans les missions, on cherche à construire le meilleur produit, le plus pertinent, le plus qualitatif et à craquer des problèmes pour offrir des solutions aux utilisateurs. Sans surprise, par des missions aussi proches, d'évolution, de porter le produit à un niveau plus élevé et de shipper en gros des features qui répondent aux besoins utilisateurs, forcément l'overlap est inhérent et va se créer. Ensuite, dans les compétences demandées sur ces rôles, et notamment à un niveau plus senior, on va être aussi assez proche, à la fois dans les hard skills et soft skills. Dans les soft skills, on va avoir bien sûr des rôles qui vont être, assez centrales dans la conception produit, donc médiateur entre les différents départements, les différents métiers, que ce soit customer support, sales, marketing, ingénieur. On va avoir cette volonté aussi de porter justement une voix et d'argumenter et d'essayer de faire les bonnes décisions, donc en comparant les bonnes données et en faisant avancer le projet. Et en hard skills, on va aussi avoir justement ces capacités de probablement maqueter, de préparer de la user research, de pouvoir faire des prototypes, de pouvoir essayer de créer aussi de la documentation pour le projet.
Si les définitions théoriques semblent claires, dans la pratique, les choses ne sont pas si simples. Tous nos invités ont observé la même chose. Les deux rôles sont souvent réduits à quelques compétences facilement identifiables ou raccrochés à une unique étape du projet.
Je pense qu'un biais qu'on a beaucoup, pour moi, dans la French Tech parisienne, c'est vraiment quelque chose que je perçois et que j'ai pu expérimenter moi-même, c'est qu'on a un peu tendance à faire un raccourci sur le product designer fait beaucoup de UI. Et du coup, voilà, ça fait des organisations où potentiellement, le product manager va arriver avec des écrans, un flow, etc. Et le designer va juste être là pour... j'exagère et je tire le trait. Mais un peu par provocation aussi, hein, mais va être là pour finalement mettre la charte graphique et faire en sorte que ce soit joli, quoi. Après, le biais existe aussi côté product management, dans le sens où il y a aussi beaucoup de boîtes, malheureusement, encore, et j'espère que ça va changer, mais à Paris, il y a encore beaucoup de boîtes où le product manager est plus chef de projet que product manager. En fait, c'est un peu, pour moi, l'ensemble des fonctions dans certaines organisations qui sont moins responsabilisées qu'elles peuvent l'être dans une organisation plus mature. On n'y est pas encore, mais je pense qu'on va dans le bon sens, j'espère.
C'est vraiment, pour moi, sous-optimal de cadrer le designer sur, en gros, en bout de chaîne de projet et lui dire sur des wireframes déjà dans le pire scénario, déjà pensé, peut-être très bancal, d'y appliquer une couche visuelle et couleur. Ce cas-là, pour moi, était sûrement plus présent il y a quelques années et a tendance à disparaître. Mais maintenant, on va quand même avoir ce côté où le designer va être peut-être exclu de certaines phases de réflexion du projet ou même quelquefois être dépossédé de pratiques comme la user research. Et là, je trouve que c'est assez dommage parce que le designer est censé être encore une fois la voix de l'utilisateur, de développer son empathie et sa réflexion projet sous le prisme de l'utilisateur. Et donc, de l'exclure, par exemple, de pratiques d'interview, de test ou même d'omettre ces pratiques-là dans la conception de produits, je trouve ça assez dommage. Et ensuite, de ne pas se servir des bonnes briques de réflexion que peuvent amener les designers, donc de par leur créativité, de par leur connaissance UX et produits, de leur background, mais aussi du benchmark qu'ils font au quotidien, dans la littérature qu'ils lisent aussi au quotidien, c'est vraiment dommage de se passer de ça. Il y a sûrement aussi pas mal de frustration qui va être ressentie probablement des deux côtés, parce que d'un côté, on va peut-être shipper une UX et un produit de moins en moins qualitatif qui peut faire en sorte qu'on accumule une dette, au final, produit et UX de plus en plus grande au fur et à mesure des années. Et du côté du designer, ça peut être un gros, une grosse cause de départ ou de frustration sur le long terme qui fait que la motivation n'est plus là et qu'on a envie d'aller voir ailleurs alors qu'on sent qu'on a envie de la valeur, qu'on a envie d'apporter de la valeur.
Je trouve qu'il est très incompris, tant le rôle de product designer que le rôle de product manager. Et pour cause, par exemple, j'interviens dans différentes formations telles que Noé et John Maestro. Je vois très clairement qu'il y a une confusion du rôle du product designer. Par exemple, aux États-Unis, on a clairement pas peu ce problème-là. Et je l'ai vu en étant chez PayPal, où j'étais souvent entre Paris et San Francisco, où là, le designer s'asseyait clairement à la même table du product manager. Il y avait des fois des frictions. On argumentait, contre-argumentait. On essayait d'éviter les consensus mous. Mais clairement, le product manager et product designer étaient sur la même table. Il y en avait pas. C'était pas le product manager qui dirigeait le product design. Pendant très longtemps, et je m'excuse déjà de cette expression que j'utilise assez souvent, le product designer était vu comme ce que j'appelle un design monkey. C'est-à-dire, c'est la personne qui va pousser des pixels, faire du coloriage et rendre les solutions jolies, belles. Si je pars de mes formations de John Maestro, il y a toujours, à chaque fois que je présente la façon dont un product designer travaille et collabore avec un product manager, on me demande, alors, c'est quoi le scope du product manager? Je ne comprends pas. Donc, il y a vraiment un flou. En fait, pendant très longtemps, et par exemple, j'ai eu le cas aussi chez La Fourchette, le product manager pensait la stratégie, définissait les problèmes et définissait des solutions. Or, la dernière étape, c'est l'étape qui appartient au product designer. Et encore une fois, en étant challengé par d'autres designers, pas par d'autres product managers. Mais c'est pas l'étape, l'ownership, comme on peut appeler dans le milieu, l'ownership du product manager que de venir avec des solutions. Vraiment pas. Et c'est bien ça, il y a toute une méthodologie pour arriver avec une solution qui appartient clairement au product designer. Et moi, j'ai ce but-là d'évangéliser sur le rôle de product designer envers des product managers et futurs product managers.
Moi, c'est Diane. On se rencontre aujourd'hui dans le contexte du product management. Donc, une identité forte, nécessairement, c'est que je suis product manager, mais pas que. J'ai beaucoup travaillé à l'étranger. Je pense que j'ai une vraie appétence pour tout ce qui est international et découvrir les autres cultures, notamment dans la collaboration. La relation avec le design, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que moi, je vois un peu le product manager avec, avec différentes casquettes. Et donc, il y a la casquette technique et c'est souvent des PM qui vont avoir un background d'ingénieur plus business. Et là, on a typiquement école de commerce, si on veut lier à des formations, mais finalement, pas nécessairement, et plus data. Et moi, c'est vrai que j'ai une vraie appétence pour tout ce qui est UX et particulièrement tous les sujets de discovery. Après, je sais faire une design critique, mais je me considère pas du tout comme une designer. Je sais pas faire des écrans, je sais pas me servir de Figma, etc. En revanche, je suis à même de gérer une discovery, et c'est pour ça que la relation avec le design, pour moi, ça a toujours été un binôme fort où on se comprend et où on est des alliés. Il y a souvent des organisations qui vont dire oui, le PM c'est un peu le mini CEO de sa squad. Alors, écoutez, si ça marche pour vous, c'est super. Moi, je sais que j'ai pas très envie de travailler comme ça parce que je pense pas qu'on arrive au meilleur résultat de cette manière. Parce qu'en fait, un PM, il est pas omniscient. Et il a vraiment besoin de pouvoir se reposer sur l'expertise du product designer et du tech lead. Parce qu'ils ont des points de vue qui sont fondamentalement différents du sien et une perception de l'utilisateur, de la usability et des problèmes à résoudre qui est fondamentalement différente. Et donc, quand on dit que c'est le mini-CEO, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la responsabilité lui incombe, alors que non. C'est, pour moi, et dans la manière dont j'ai envie de collaborer, en tout cas, c'est une responsabilité qui est partagée. Et c'est très dur à mettre en place, vraiment. C'est très dur parce qu'il faut avoir des personnes qui ont envie de travailler comme ça et qui ont envie que ça marche comme ça, et c'est pas le cas de tout le monde.
Chapitre 2. Un duo déséquilibré. L'équilibre entre les rôles est donc la clé d'un duo de choc. Malheureusement, cet équilibre semble difficile à trouver. En discutant avec nos invités, nous avons identifié trois raisons à ce déséquilibre. La première vient de la compréhension des expertises en design et en product management, notamment pour le design et la user research, dont la complexité est sous-estimée. Diane et Laurent nous partagent leur point de vue.
Même aujourd'hui, le rôle du design, il n'est pas apprécié à sa juste valeur, dans le sens où on ne se rend pas compte qu'il y a une expertise. Le nombre de fois où j'ai entendu dire « Non, ça va, c'est juste ça. Et juste un écran, et juste ci, et juste ça. » Et moi, j'avais banni ce mot dans ma squad chez Pivotal. En fait, ce n'est pas juste. Il y a plein de détails qu'on n'a pas en tête quand on est en train de réfléchir à une solution. Et donc, nécessairement, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit quand on regarde les choses de très près. Et donc, en fait, le rôle du design, en ce sens, il est invisible parce qu'il y a toutes les petites interactions, tous les edge cases, toute l'intégration avec le reste du produit auquel il faut penser et anticiper. Et ça, c'est un travail qui est invisible dans une certaine mesure. Parce qu'on a l'impression quand je dis notre, j'entends d'une manière générale, mais que le travail des designers n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et finalement, je me faisais la réflexion sur la synthèse de recherche utilisateur. En fait, une bonne synthèse, elle est hyper accessible. Et donc, en fait, quand on le voit, on se dit, c'est hyper accessible, c'est hyper simple. Mais c'est là tout le talent de la personne qui va faire cette recherche, et je pense que c'est vrai aussi pour le design. En fait, l'expertise, elle est là, c'est de prendre un sujet qui est complexe et de le rendre simple et simple d'accès. Et quelqu'un qui n'apprécie pas forcément ce travail à sa juste valeur va se dire, mais attends, vas-y, t'as vu le résultat, c'est simple, c'est bon, moi aussi, je peux le faire. Vas-y, fais-le, si c'est si simple, n'hésite pas.
Je m'appelle Laurent Grimard. Je suis freelance depuis quelques mois, je fais du mentoring pour des équipes produits et aussi du product design pur et dur. Avant ça, j'étais salarié dans des startups et des grands groupes. J'ai fait trois jobs en fait de l'équipe typique de dev. Donc j'étais d'abord dev, enfin équipe produit pardon. J'étais d'abord dev, puis PM, puis enfin designer. Et j'ai notamment travaillé chez Auchan dans une startup interne pour refaire leur service de livraison à domicile, et chez Inatos, une startup à Paris qui construit une marketplace pour la recherche clinique. Et après, en ce qui concerne le designer, j'ai arrivé à un truc qui m'avait énormément marqué. C'est un tout petit article d'un mec qui s'appelle Seth Godin, qui est un, un peu une référence du marketing, qui écrit des bouquins très intéressants, mais aussi un blog super intéressant. Et en gros, c'est un article très court sur... quand on va chez le dentiste, enfin, on remet pas en cause l'expertise d'un dentiste, en fait. Parce que ou d'un développeur, par exemple, ou d'un dev. Parce que, en fait, c'est des jobs qui sont hyper inaccessibles. Il y a une technicalité qui est hyper évidente, en fait. Et en contrepartie, enfin, un peu à l'opposé, il y a des jobs qui ont l'air, ils ont l'air accessibles, quoi. C'est tu les fais, tu peux les faire à la maison dans ton temps libre, placer des rectangles sur une page, parler à des utilisateurs. Putain, c'est facile, quoi. Genre, tout le monde peut le faire. En fait, la barrière à l'entrée, elle est super faible. On se rend compte que d'un côté, pour ce job, enfin d'ailleurs, c'est vrai pour les deux jobs, hein, c'est vrai pour designer et PM, mais en gros, la barrière à l'entrée, elle est très basse. C'est facile à prendre en main. Pour un PM, il faut écrire des documents, et pour un designer, il faut placer des rectangles sur une page. Et pourtant, la performance de cette job, elle est hyper difficile à mesurer. Et donc, du coup, en fait, ça c'est un super cocktail pour que les gens qui savent pas trop comment ça marche, ils pensent que c'est facile, quoi, qu'il y a pas grand chose derrière. Alors, en fait, évidemment, on se rend compte que c'est pas du tout vrai. Et en fait, c'est très, très compliqué de faire du produit. Il y a énormément de choses à apprendre et c'est très technique. Mais c'est juste, si t'as jamais vraiment baigné dedans, tu sais pas. Pour résumer, il y a un gros enjeu d'évangélisation, en gros, du job et de culture partagée, de compréhension partagée de ce que ça veut dire de construire du produit.
Sur la user research, Audrey reconnaît la complexité de la pratique. Elle met aussi en avant la nécessité de former les équipes à cette spécialité.
Je pense que quelque chose d'intéressant, c'est de se dire qu'il y a plein de gens qui sont capables de le faire, de seconder, de porter ce genre d'activité dans l'entreprise, parce que pour moi, c'est tellement une pratique riche et importante que le plus on a de gens qui sont capables de mener ça, le mieux. Mais il y a le mener, dans le sens où il faut être formé, il faut savoir ce qu'on fait, il faut connaître toutes les notions de biais, enfin voilà, comme tu dis, c'est des compétences à part entière. C'est une formation, c'est de l'expérience. Et moi, je sais que j'avais appris pas mal chez DocuSign, au contact. On avait une équipe de user research, etc. Et aussi, après, j'avais travaillé avec une designer qui m'avait beaucoup emmenée en interview utilisateur, où j'étais vraiment en observatrice. Et donc, je pense que, en fait, l'enjeu, ça va être qu'on arrive à formaliser un petit peu la formation des gens au produit au sens large à ce genre de pratique. Après, est-ce qu'il faut un département user research dédié ou pas? Je pense que ça dépend de la taille des organisations, des profils que l'entreprise a, etc. Mais en revanche, se dire de la même manière qu'on forme à des techniques de priorisation et qu'on forme à l'estimation côté dev, en fait, il faut qu'on dise on forme aussi à la user research. Et c'est pas juste un truc qu'on fait à la one again en mode cow-boy, quoi. Moi, mon sentiment, c'est ça. C'est l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on institutionnalise une formation, un ensemble de compétences claires sur la notion de user research, que ce soit finalement une partie de la discovery. Comment ça devient vraiment un skill set sur lequel on forme les gens et sur lesquels on va attendre une forme de progression et on va avoir des vrais indicateurs de suivi, de montée en compétences, etc. Comme on a pu l'avoir initialement sur la partie plus gestion de projet, delivery, etc. On est peut-être un peu à la période charnière entre on en parle beaucoup et tout le monde le fait un peu à la one again parce que on se rend compte que c'est utile et parce que peut-être aussi c'est un peu à la mode, vers un côté on professionnalise ça, on se pose la question de comment on le fait proprement et on forme vraiment les gens dessus.
Jérémy nous raconte comment, au sein des formations de Design Crew, la question de la définition de ces rôles est traitée.
C'est clairement un des sujets clés qu'on aborde. On l'aborde dans à la fois les formations en reconversion design, pour ceux qui vont trouver leur premier job en product design, et aussi dans les formations en fait pour intermédiaires et seniors. Je dirais il y a plusieurs angles. Il y a un premier angle qui est, ça je t'en avais un peu parlé aussi, pour moi l'UX en général, et je pense que ceci se défend à The Design Crew, l'UX n'appartient pas au designer. Nous, on a une capacité en design pour vraiment avoir cette réflexion et cette conception centrée user. Et du coup, on pousse l'expérience pour que ce soit la plus qualitative, la plus homogène possible et qu'elle réponde aux bons problèmes. Mais il faut comprendre que l'UX, c'est un travail d'équipe. Le produit, c'est un travail d'équipe. Et que l'UX, ça peut être impacté à la fois par le travail des développeurs. Est-ce qu'il y a de la latence dans les différents, encore une fois, produits qui sont shippés? Est-ce qu'il y a beaucoup de bugs, etc.? Ça, c'est de l'UX. Et dans aussi, juste choisir les bonnes fonctionnalités à prioriser, la bonne réflexion problème ou faire de la user research, être de l'UX aussi côté PM. Je pense qu'il y a un premier discours qui est, justement pour commencer à aborder cette notion de porosité entre les rôles et de travail d'équipe, l'UX, c'est un travail commun, mais le designer, bien sûr, c'est un peu son challenge d'aller l'apporter au plus haut niveau dans la réflexion et dans la conception. Ensuite, en termes de skill set, on parle beaucoup, bien sûr, des skill sets du designer et du PM, du product design et du PM. Et donc, à la fois en termes de soft skills, hard skills, on essaie de déjà bien clarifier qu'est-ce qui est attendu et bien les pratiquer. Et donc, pour ça, je peux te donner plusieurs exemples, mais déjà, on fait beaucoup de travail en groupe, de travail d'équipe, de confrontation, justement, d'idées, de feedback sur toutes les étapes d'un projet. Ça aide beaucoup les soft skills plutôt de médiateur, de communication, etc. Ça fait aussi tomber les égos de « c'est mon travail à moi perso », c'est un travail de groupe. Ensuite, on essaye aussi de vraiment développer côté designer la réflexion problème. Alors même si, en tant que junior, ça va être peut-être un peu plus dur d'avoir de l'impact dès le début sur ce type de phase de projet, nous, on pense vraiment que le product designer sait réfléchir, sait penser business et surtout articule une pensée business. On prône vraiment l'impact du design aussi sur le business, donc c'est l'angle du product design. Et pour ça, on leur permet de vraiment essayer de clarifier et de cadrer une réflexion problème par rapport à des objectifs qui peuvent être flous à la base, à travers nos cas pratiques, quoi, qui sont des cas pratiques qu'on essaie de faire avec des vraies boîtes et des vrais stakeholders. Donc on a travaillé avec GetAround, avec Lydia, avec Itch, avec La Fourche, et les stakeholders sont venus à la fin aussi donner des feedbacks sur le projet. Et donc ça permet aux designers de non pas que montrer des réflexions, des pistes, solutions, mais aussi de montrer une compréhension du problème donné, peut-être quelquefois un recadrage de ce problème-là, de aussi identifier lorsqu'il y a trop d'inconnus, type en data, de pouvoir poser les bonnes questions et de récolter ces infos-là, ou aussi en retour terrain, qui sont nos utilisateurs, est-ce que c'est un vrai pains, quels sont leurs contextes d'utilisation, et du coup d'aller faire de la user research. Donc, par le brief et ensuite par le déroulé des projets dans leur entièreté du problème à la solution, on leur pousse une réflexion où ils vont devoir, encore une fois, synthétiser, cadrer, récolter des informations et axer de cette compréhension du problème la meilleure piste et la meilleure direction possible dans la phase solution pour ensuite la développer, la challenger et arriver à quelque chose qui est viable. On fait un cours dédié à la relation PM-design. On explique aussi à travers notre vécu, à travers notre idéologie sur cette paire justement et la valeur ajoutée des deux rôles, comment on pense que cette relation peut se passer et quelle est la place du designer et par quel type de, je dirais encore une fois, travail de culture d'équipe, par quel type de process, de rituel on peut essayer d'amener cette collaboration à un succès. Et on fait aussi pareil au final côté design et tech, parce que aussi pas mal de problématiques à bien gérer dans inclure les développeurs dans la réflexion UX, travailler sur le développement de la solution, faire le suivi de développement, la QA, etc. Donc il y a beaucoup de problématiques qu'on essaie de, je dirais, d'apporter assez tôt, notamment dans notre bootcamp, donc qui est la formation de reconversion en design, pour que en fait, premier jour de travail côté product design, ils aient déjà des billes de comment je bosse avec les PM, comment je bosse avec les développeurs, quel est, je dirais, mon rôle en tant que junior et comment je peux évoluer pour avoir de plus en plus d'impact, non pas que sur la solution, mais aussi sur la partie cadrage, problème, etc.
Ce sont parfois les structures organisationnelles des entreprises qui sont à l'origine de ce déséquilibre. Audrey livre son analyse sur ce sujet.
C'est quelque chose qui est... Je ne sais pas si c'est favorisé ou si c'est juste que personne le combat en essayant de mettre en place les bonnes organisations. Mais je pense qu'il y a un côté solution de facilité et un côté rapidité. Solution de facilité parce que c'est toujours plus facile d'avoir l'illusion qu'on est tous d'accord et d'avoir une espèce de streamline flow que de se confronter et d'avoir des discussions un petit peu passionnées et un petit peu enthousiastes autour de sujets. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est pas... c'est perçu comme du négatif, une discussion potentiellement confrontante ou ou un peu passionné, alors que pour moi, il y a vraiment une confrontation positive qui permet souvent de trouver une meilleure solution que celle qu'avaient les deux parties au début de la réunion. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est la notion de rapidité. Je pense que beaucoup d'entreprises, en tout cas moi où j'ai bossé, que ce soit en hyperscale, dans la logique de levée, il y a ce côté, il faut qu'on aille vite. Et la discussion à plusieurs parties prenantes, la confrontation, enfin voilà, c'est le seul, on va vite, ensemble, on va loin, en action. Qui est si le PM décide tout seul dans son coin et passe les infos au product designer, ça va plus vite que s'il y a une vraie co-construction du truc. Et donc, je pense que c'est à cause de ces deux choses-là, à cause de la notion de vitesse, mais aussi de relation, rapport à la confrontation qu'on peut avoir dans l'entreprise, que les entreprises savent aujourd'hui pas encore favoriser une relation product designer, product manager qui est plus justement de co-création, de co-conception et de vraiment de pair en charge, quoi.
Laurent nous partage son expérience au sein d'Inato. Il est passé par les trois rôles clés d'une équipe produit, de développeur à product manager, puis enfin designer.
J'ai changé de job aussi au fur et à mesure que la boîte changeait de taille, de structure, enfin voilà. En gros, je suis arrivé dans la boîte où ils étaient, je pense, peut-être 5. Au tout début de la boîte, ils avaient, en gros, construit un petit MVP. Et pendant cette année, première année de dev, moi, j'ai recruté pas mal de gens dans mon équipe. Et donc, en gros, l'équipe ingénieure, elle s'est vraiment structurée pendant un an. Et en parallèle de ça, bah, l'équipe produit, elle était un peu en berne. Ça s'était pas bien passé avec le premier CPO qu'ils avaient eu. Ils cherchaient à grandir l'équipe avec un PM. Et moi, j'avais déjà fait du coup du product management chez Auchan pendant un an et quelques. Et pour moi, c'était relativement clair que naturellement, j'allais plutôt faire une carrière en direction du produit que de l'ingénierie. Et du coup, bah, ça s'est un peu combiné. Et après, en fait, bah, designer, ça c'était vraiment intéressant. En gros, il y a eu cette réalisation que bah, il y avait pas la place en fait pour les PM. On avait fait une période de croissance assez forte et en fait, on s'était rendu compte que c'était de la croissance un peu artificielle et que on s'était planté en termes de product market fit. Enfin, il y avait pas de product market fit avec ce qu'on avait construit et on a dû pivoter en gros. Et on s'est rendu compte peu à peu que en fait, avoir les PM au milieu, c'était chiant parce que les personnes qui avaient vraiment l'expertise de l'industrie, etc., et qui pouvaient piloter rapidement, c'était le CEO. Et en fait, au fur et à mesure, l'équipe, elle s'est complètement vidée à l'étage product management. Et en gros, moi, je suis passé... Enfin, c'est un peu la même chose. J'ai eu un peu cette réalisation que, en fait, le produit product management, ça me plaisait qu'à moitié, que le design, ça me plaisait à mort, parce que du coup, j'ai passé pas mal de temps à faire du design avec le designer. Désolé. Et du coup, voilà, ça les a arrangés aussi que... Bah, que je fasse ça, quoi, parce que sinon, en gros, c'était l'alternative, c'était d'aller faire autre chose dans une autre boîte. Il y avait déjà des PM, des designers, des devs, mais en gros, ce qui se passe, c'est la team leadership, donc en gros, pour simplifier, CEO, head of sales, ont des idées, parce qu'en fait, l'expertise de l'industrie, elle est concentrée chez eux. Elle est pas forcément très, très développée, mais elle est quand même concentrée chez eux. Et donc, du coup, en fait, ils te filent une roadmap et bah, le product manager récupère en fait une fonctionnalité déjà décidée à shipper. Dans ce cas de figure, il y a aucune place en fait pour faire du product management et tout est décalé vers le bas. Pour moi, c'est hyper intéressant parce que l'overlap entre les jobs, il vient vraiment d'un problème organisationnel de la boîte et de compréhension de ce qu'est censé faire un PM ou plutôt de qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire du produit et qu'est-ce que fait un designer normalement. En fait, j'ai jamais fait du design à la place du designer. On a fait beaucoup de pair designing, quoi. Alors, je sais pas si c'est un truc qui est hyper familier pour les designers, mais en dev, ça se fait énormément. Et là, en l'occurrence, c'était bien aussi, c'était bien de mon point de vue. Je pense qu'a posteriori, ça a un peu empêché le designer aussi de, bah, croître, prendre sa place, apprendre des choses. En fait, le parti pris, c'était, moi, j'avais une meilleure compréhension du business et de l'utilisateur parce que j'avais majoritairement mené toute la user research parce que je n'avais déjà fait beaucoup et tout. Et donc, en gros, je pouvais lui injecter ces choses-là en temps réel. Alors en fait, je pense que pour le designer, pour lui, ça aurait été mieux en termes de croissance et à long terme de le laisser avoir plus de place et gérer plus de choses, même si je pense qu'on a fait des super bons designs à deux. En l'occurrence, moi, j'ai jamais vraiment touché le clavier à cette époque-là. C'était plus, on réfléchit à deux pendant toute la durée du projet, ce qui est pas forcément mal, mais ce que je pense pas être la façon optimale de faire, quoi. C'était vraiment une conséquence de l'organisation de l'époque, je pense. Et peut-être de mon appétence pour le design aussi, qui était un peu, genre, refoulée.
Panthéa raconte son expérience compliquée chez La Fourchette.
Je me suis clairement pris un TGV en pleine poire quand je suis arrivée chez La Fourchette. Pour moi, La Fourchette, avant d'y entrer, c'était un produit que j'avais dans mon téléphone et c'était un produit qui me plaisait déjà. Et lorsque j'y rentre, je suis persuadée que pour faire un produit de cette qualité-là, on a compris ce que c'est le product design. Et en fait, je rentre dans cette boîte-là, je suis encore jeune hein, dans ce métier, et puis je sors d'une première expérience tellement enrichissante que pour moi, c'était pas possible que ça soit autrement. Et j'arrive chez La Fourchette où on me dit « voilà le projet, voilà un wireframe, voilà la deadline ». Parce que si tu délivres pas à cette deadline-là, les développeurs, ils auront rien à faire. Enfin, ça sonne comme un chaos en moi. Donc, c'était vraiment terrible comme situation là en tant que designer. Mais on a le choix de soit, un, de revendiquer, mais ça n'apporte rien en fait, soit d'évangéliser et de se dire « ok, c'est quoi la chose que je veux faire évoluer là maintenant, tout de suite dans ce projet ?» Leur montrer la valeur ajoutée de la recherche. Parce que je me rappelle que quand je leur ai demandé « vous ne parlez pas aux utilisateurs », on m'a dit « mais si tous les vendredis, on a nos heavy users qui viennent chez La Fourchette discuter avec nous autour de l'apéro. » Et on leur montre des projets. Et donc, je me suis dit « ok, c'est pas de la recherche d'interview, c'est nos heavy users, mais vas-y, Panthéa, va t'asseoir là-bas et essaye d'écouter ce qui se passe. » Et c'est ce qui s'est passé. Je me rappellerai toujours un vendredi soir où ça mangeait des chips dans la cantine de La Fourchette avec les heavy users qui étaient contents de venir pour parler de leur yum, c'était leur point de fidélité. Et là, il y a un PM qui débarque, qui leur dit « écoute, on est en train de faire ça, t'as vu, c'est cool, hein ?» Et là, je me suis dit, mon Dieu, on est au niveau zéro de la recherche utilisateur. On est en train de biaiser. Comment tu veux que quelqu'un te réponde « non, c'est à chier ton projet ». Enfin, c'est pas possible. Non seulement tu parles à des heavy users et en plus, t'es en train de lui dire « t'as vu, c'est cool ce qu'on est en train de faire ». Donc là, il fallait évangéliser. Comment on pose des questions à un utilisateur ? Ok, prenons cette session-là et faisons-la évoluer. Et puis ensuite, il y a eu, une fois qu'on a fait cette partie-là, on leur explique que ce petit microcosmos d'utilisateurs, ce sont des heavy users, et donc ils sont pas représentatifs de tes users en général, et donc il faut parler à plus de gens, à des membres très différents. Chez La Fourchette, ça a été chaotique pour moi en termes de découverte de la maturité du design chez La Fourchette, mais en même temps, ça a été très révélateur. C'est là où j'ai grandi le plus en tant que designer, parce que je suis passionnée par mon métier et je sais ce que c'est le design. Et comme grâce à PayPal, parce que si j'avais commencé par La Fourchette, ça m'aurait peut-être biaisé, mais j'ai commencé par PayPal et donc ça m'a donné une force en me disant ok, je sais comment ça marche, je sais comment ça doit marcher. Et là, j'ai mis en place des méthodos avec l'aide de mon head of design, avec l'aide d'autres personnes de l'équipe. On a mis en place de la recherche, de la visibility testing, etc. Ça a été encore même dur quand je suis partie. Quand je suis partie, je sentais encore des frictions dans certaines choses. Mais c'était pas le La Fourchette de quand j'étais arrivée.
Une autre raison du déséquilibre peut venir de la définition personnelle de ces rôles, souvent forgée par les expériences passées. Audrey nous partage une expérience qui illustre ce point.
Évidemment, il y a une job desk hein, pour le PM, une job desk pour le product designer. Mais je pense que justement, dans toutes ces choses qui sont un peu dans la zone grise et même dans la façon après de lire les fiches de poste, il y a souvent des grosses incompréhensions. Je l'ai vécu d'ailleurs un peu dans le côté inverse, où moi j'ai toujours plutôt eu tendance à attendre des product designers avec lesquels je travaillais, justement ce côté vraiment pair sur lesquels je pouvais me reposer aussi à part entière. Et puis, il y avait eu une situation très précise une fois où on devait préparer un rendez-vous avec un client et on s'était dit qu'on allait en profiter pour faire un peu de discovery. Et donc, on préparait ce rendez-vous. Du coup, moi, je m'étais noté, bon, bah, je m'occupe de la partie problème. Et j'avais dit à mon collègue côté design, je te laisse faire les prototypes et tout pour la partie usabilité. Et grosse incompréhension parce que donc, je lui ai donné un exemple en disant, on pourrait avoir tel type de maquette parce que ça montre bien la complexité de ce cas d'usage là, etc. Et deux jours avant le rendez-vous, on se recroise juste pour un peu justement se challenger aussi sur est-ce qu'on avait préparé les choses et comment on allait dérouler le truc. Et là, je me rends compte qu'en fait, il avait fait un prototype cliquable de exactement le cas que j'avais donné à l'oral pour illustrer. Et il n'était pas allé voir les équipes métiers pour leur demander des données concrètes. Il avait fait le niveau d'interaction 1 et pas le 2, le 3, etc. Et en fait, je me suis vraiment retrouvée dans une situation où j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et il m'a dit, en fait, tu m'as demandé de faire ça. Et là, j'ai vraiment bugué en mode, mais en fait, on a discuté de ce qu'on allait faire l'un et l'autre, mais moi, j'avais fait mes trucs sur la partie produit et je m'attendais à ce que toi, tu fasses tes trucs sur la partie usabilité et que tu prennes le lead dessus, quoi. Et pas que je te dise, tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça. Et bon, après, ça a été très intéressant parce qu'on a pu avoir cette discussion et que du coup, il m'a dit, j'avais pas compris que c'était ça qu'on attendait de moi. Donc, ça illustre très bien le point de, en fait, c'est pas forcément clair pour les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leurs entreprises précédentes, quelle place ils ont eu et est-ce qu'ils ont eu justement cette capacité d'être responsable du périmètre ou pas. Et du coup, beaucoup de gens vont avoir tendance à reproduire ce qu'ils ont appris, ce qui est assez naturel.
Diane raconte une expérience différente. Elle pointe l'importance de la flexibilité et met en avant le côté riche d'une collaboration entre expertises.
Quand j'étais chez Le Bon Coin, j'ai eu la chance de collaborer avec des designers, une designer en particulier absolument géniale, avec qui on a été un vrai binôme et je pense qu'on s'est beaucoup énergisé toutes les deux. On était très ouvertes et donc on accueillait beaucoup la critique l'une de l'autre et je pense qu'en travaillant ensemble, on a réussi à gérer une refonte qui avait beaucoup de sens pour l'utilisateur, qui a permis aussi de mettre en place des méthodologies UX qui aujourd'hui sont très développées en interne et qui n'étaient pas forcément à l'époque. Donc ça peut être un binôme vraiment très productif. Après, quand j'étais chez Pivotal au début, forte de l'expérience que j'avais eue chez Le Bon Coin où j'avais en partie géré la discovery, je ne comprenais pas, j'avais l'impression d'être dépossédée lorsque la designer gérait ça et par ailleurs beaucoup mieux que moi et me faisait du feedback sur le produit, sur la roadmap et en fait je me sentais un peu mise en danger, j'avais le sentiment que mon travail était finalement peut-être moins utile et je me sentais un petit peu menacée, mais finalement ça venait d'insécurité très clairement. Et surtout quand je me suis rendu compte, concrètement, si je mets mon ego de côté, je vois que ces points sont extrêmement pertinents et en fait j'ai complètement envie d'apprendre de cette personne. Donc là on a une situation où l'overlap était peut-être plus du designer qui fait un petit peu de produit, ce qui, je pense pas être le fond du problème dans la relation design-PM. J'ai peut-être plus l'impression que c'est l'inverse, que c'est le PM qui overlap sur le rôle du design et je pense que c'est surtout là que ça peut créer des tensions. Finalement, quand j'ai mis tout ça de côté, on a une collaboration vraiment très très productive. Pour moi, c'était un vrai problème d'ego. Parce que j'avais le sentiment que j'avais plein de choses à prouver et que donc du coup nécessairement il fallait que ce soit moi qui soit à l'origine de tout, alors qu'en fait non, et c'est la base même de la collaboration. Tu ne dois pas être à l'origine de tout. Le principal, c'est que ensemble on arrive à avoir un output qui est quali, qui est bon. Et comment est-ce que j'ai résolu ça? En fait, en étant un petit peu honnête avec moi-même et en me disant, dès qu'elle me faisait une suggestion, j'étais là, j'avais envie de dire non. Parce que j'étais triggered, en fait. Mais quand j'essayais de trouver des arguments à contrebalancer, je me rendais bien compte qu'elle avait quand même sacrément raison et que ses points étaient hyper pertinents. Donc Jessica, si tu nous entends aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu es une excellente product designer et je pense que tu ferais une très bonne product manager.
Pour Panthéa, il appartient aux designers et designeuses de définir leur rôle.
Je vois beaucoup, 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 beaucoup de designers qui s'arrêtent au delivery. Et ça, pour moi, c'est une erreur, encore une fois. Autant que d'être passif en amont, être passif au delivery, c'est aussi une erreur en tant que designer. C'est se mettre dans une mauvaise position. Donc, pour moi, c'est aussi la responsabilité du designer. On a souvent tendance à dire « c'est la faute des autres, c'est pas ma faute ». Mais si tu ne fais rien pour pas changer les choses, eh bien, rien ne se passera. Ce n'est pas un PM qui va changer ta situation. Quand on délivre, on monitore avec la data. Et moi, je travaille souvent avec les product managers en définissant ce qu'on va analyser, monitorer. Et donc, le data analyst, il fait tant bien des dashboards pour le product manager et le designer en prenant en compte tous nos besoins. Et à ce moment-là, on voit si les success metrics ont été atteints, etc. S'ils n'ont pas été atteints, on essaie de comprendre pourquoi. Et donc, c'est une boucle itérative. Sinon, on repasse. Une fois qu'on est d'accord, on est super clair que le produit a été shippé et c'est un succès, on peut passer à ce moment-là sur un autre projet. Mais il ne faut pas délivrer, passer sur un autre projet, attendre qu'on te dise, voilà, les datas, c'est ça, c'est bien ou c'est pas bien. Je pense qu'il faut vraiment prendre la responsabilité de son design jusqu'au bout.
Chapitre 3. La bonne collaboration entre product management et design. Si parfois la relation peut être difficile, elle peut aussi être profitable aux deux membres du duo. Audrey nous partage sa vision d'une bonne collaboration.
Moi, j'aime bien, d'un point de vue vraiment structure d'équipe, qu'il y ait idéalement un product manager, un product designer et un engineering manager qui bossent tous les trois ensemble et qui sont très clairement identifiés comme un trio de travail au quotidien. Et ensuite, l'autre point qui, je pense, est important pour moi, c'est de ne pas s'imaginer qu'il y en a un qui décide plus que l'autre. En fait, c'est vraiment un binôme avec des compétences complémentaires. Et après, c'est un petit peu ce que je dis aussi à mes équipes sur la partie PM-EM ou PM-PMM. Il y a aussi le duo ou le trio qui va trouver le mode de fonctionnement qui lui convient. Donc, je pense que ça, c'est aussi important en fonction des personnalités qui vont être en présence qu'il y a un équilibre qui se trouve qui fait que tout le monde se sent en sécurité et se sent utile. Et donc, sur ces sujets-là, j'aurais tendance à dire être flexible un petit peu sur les limites potentiellement entre les deux sujets. Si, par exemple, il y a un product manager qui adore participer à de la user research, et ben le product designer peut l'y inviter, voire même lui déléguer une fois qu'il a l'impression d'avoir formé le product manager. Et de la même manière, s'il y a un product designer qui est hyper intéressé pour se poser des questions de roadmap ou de priorisation, et ben c'est bien que le PM l'embarque. Donc voilà, après, un truc que je trouve important aussi, c'est idéalement d'avoir quand même un leadership et produit et design assez fort dans l'entreprise, parce que c'est bien que les deux membres de l'équipe aient une inspiration et une direction claire, et qui parfois sont un petit peu en conflit, mais ça crée des confrontations positives et c'est assez utile et pour la boîte et pour le produit. C'était quand je travaillais chez DocuSign. Du coup, on travaillait à ajouter des formes de signature plus sécurisées. Et donc ça voulait dire retravailler un peu toute l'expérience à la fois d'envoi et de signature. Moi, j'étais la product manager qui travaillait sur la partie justement deuxième authentification, et j'avais du coup une interaction designer qui travaillait avec moi. Et après, en chapeau, on avait une directrice produit et une directrice design qui coordonnait un peu toutes les nouvelles expériences de signature. Et du coup, ce que j'avais trouvé vraiment chouette c'était que déjà j'avais une binôme très identifiée. Et après, on avait eu une approche du coup que j'avais trouvé très structurée, vraiment sur le système au global, grâce aux deux directrices design et produit. Je me souviens d'un atelier de travail qu'on avait fait où il y avait du coup les product managers de tous les types de signatures sécurisées, donc on devait être 3 ou 4, plus les interaction designers pour les 4 PM, plus du coup les deux directrices. Et on avait fait une énorme story map où on avait décrit ce qui se passait pour la personne qui crée l'enveloppe à signer, ce qui se passait pour la personne qui signe l'enveloppe, et du coup toutes les toutes les potentialités en termes de sécurisation. Tout ça pour essayer de rentrer dans un certain niveau d'abstraction et justement de penser à une solution idéalement qui pouvait couvrir tous les cas. Et après, du coup, chaque team, chaque binôme avait pu partir avec un peu un cadre et travailler dans ce cadre à comment implémenter la meilleure solution.
Panthea et Jérémy ont travaillé dans des entreprises américaines. Au sein d'organisations matures, tous deux ont découvert à quoi ressemble un duo de choc.
Très vite, j'ai de la chance de rentrer chez PayPal en tant que interaction designer. Et là, clairement, lorsque je vais à San Francisco, en fait, je me rends compte de la maturité de cette boîte envers le design. Je pense qu'il y a une centaine de designers. Et le designer collabore avec le PM de façon très étroite. C'est-à-dire que ce n'est pas une hiérarchie où le product manager arrive avec ses problèmes et ses solutions au designer et le design studio fait sa popote et sort de belles choses. Non, non, non. En fait, le problème arrive dès le début, à la session de kick-off d'un projet. On dit voilà, on a priorisé, voilà la stratégie, on va vers ça. C'est quoi votre roadmap? La roadmap est directement challengée entre évidemment des designers seniors et les product managers seniors. Elle est construite. On a une définition des quarters, des projets dans le quarter, etc. C'est tout est priorisé ensemble, main dans la main, via des workshops, etc. Et lorsque un projet tombe est priorisé, eh bien à ce moment-là, au moment du kick-off, on débattait ensemble de la façon dont on allait tacler ce problème. Est-ce qu'on fait de la recherche? Est-ce qu'on fait, quel type de recherche on fait? Est-ce qu'on a, on va voir des utilisateurs ou est-ce qu'on les, on fait ce qu'on appelle un calling campaign? On les appelle directement? Est-ce qu'on envoie un survey? On définissait la façon de faire de la recherche. Si on avait besoin de faire de recherche et s'il n'y avait pas besoin, c'est qu'il y avait déjà de la ressource en interne. Donc, on allait toquer à la porte d'autres équipes en disant, dis donc, t'as parlé à ces utilisateurs-là. Est-ce que tu peux m'envoyer ton deck avec ton récap, etc.? Donc, on allait fouiner ensemble dans ces recherches-là. On allait faire nos propres récaps pour notre besoin ensemble. On ping-pongait ensemble. C'est comme aujourd'hui, à l'époque, on n'utilisait pas Miro, mais j'ai un souvenir sur des decks Google avec le PM en train d'écrire des choses. Et puis, on se retrouve en réunion. C'était même pas des réunions. C'était, oui, on était assis à côté. On se parlait et on avançait sur le projet. C'était du, ce que moi j'appelle du co-designing, clairement.
Pour moi, une des premières expériences qui m'a marqué dans ce duo PM design, qui, encore une fois, qui m'a marqué, qui m'a inspiré à porter le discours que j'ai aujourd'hui, c'est chez Google. C'est dans les premiers projets que j'avais à Zurich, avant même de rejoindre YouTube en Californie. Je travaillais plutôt sur la partie YouTube monetization, donc le côté création de produits pour les advertisers, donc ceux qui vont créer et manager des campagnes sur YouTube. Ça c'était 6 mois avant de rejoindre l'équipe à San Francisco et de partir sur la partie plutôt créateur. Et du coup, je travaillais avec un des PM les plus seniors de l'équipe à Zurich. Encore une fois, qui m'a laissé. Je parlais un peu des souvenirs que j'ai. Hein, j'ai peut-être pas tout de manière hyper précise, mais qui m'a laissé avoir une voix et un impact dès les premiers. Encore une fois, la première documentation de quel problème à résoudre. Quel type de fonctionnalité à travailler pour notre squad et pour les objectifs du trimestre? Quel type de direction pour, encore une fois, ces produits de création de campagnes audiovisuelles sur YouTube? Et les souvenirs que j'ai, c'est que moi, en tant que, tu vois, français qui va bosser dans une boîte américaine, une boîte énorme qui vient de sortir d'études et qui suis designer, j'ai eu cette voix pour aller challenger, que ce soit par commentaire, que ce soit en synchrone dans les discussions, que ce soit dans mes réflexions, et porter vraiment mes idées jusqu'au bout, bien sûr en ayant bien sûr un dialogue très très précis avec ce PM-là dans quelle solution semblait mieux fonctionner que d'autres, quelle exploration était plus prometteuse. Mais dès le début, j'ai senti cette porte ouverte à la contribution design dans la réflexion projet, dans l'exploration, dans le déroulé ensuite de la phase de conception jusqu'au suivi de développement. Ça m'a vraiment inspiré de me dire que dans ces boîtes-là, on peut avoir cet impact aussi vite, sans se heurter à forcément des réticences, des murs, etc.
Les témoignages de nos invités nous font comprendre qu'il n'existe pas de définition rigide. Le duo de choc est avant tout une relation équilibrée, capable de faire naître une tension créative. un duo d'expertise.
Moi, je défends un modèle où les deux rôles, je crois beaucoup à un duo d'expertise entre design et PM qui apporte énormément de valeur à la boîte. Donc ce côté où ces deux rôles se nourrissent. Mais pour que cette alchimie se passe bien, il faut vraiment, d'un côté comme de l'autre, essayer de faire tomber un peu les égos et garder une motivation et une envie de faire, mais ne pas rester sur qui fait quoi, qui est responsable de quoi à la fin. C'est-à-dire qu'il y a tellement de porosité entre ces rôles-là que si le designer aide à synthétiser un problème, à faire des docs type des PRD ou des project briefs pour faire avancer le sujet et bien cadrer la réflexion, c'est très bien aussi. S'il aide sur le benchmark ou qu'il va aussi essayer d'aller creuser la data, c'est super. Et de l'autre côté, un PM qui fait de la user research et qui le fait bien, bien sûr, il y a aussi la question, est-ce qu'il arrive à le faire sans biais et pas pour valider ses propres hypothèses et faire avancer le projet, mais plutôt de manière assez neutre et récolter vraiment les feedbacks du terrain sans y apporter de biais. Que le PM puisse apporter beaucoup de valeur dans la phase d'idéation, voire maqueter quelques points qu'il peut ensuite partager au reste de l'équipe pour source de réflexion, non pas comme hors de nous devons partir dans cette direction. Moi, je trouve que dès qu'on casse un peu les cases et qu'on accepte cette porosité, mais qu'on fait tomber l'ego et qu'on a la maturité aussi de remettre en question en fait le travail de l'un et de l'autre, là on arrive à forcément une relation plus complexe parce que moins cadrée et beaucoup plus fluide, mais par contre une valeur ajoutée pour moi beaucoup plus forte et une entente quasiment dans les meilleurs des cas, une osmose entre ces deux rôles qui est vraiment hyper inspirante et qui motive à faire un travail très fort du côté ou de l'autre.